Vous écoutez, on lit pour vous.
L'argent manque pour adapter la maison des personnes handicapées. Un texte de Simon Carmichael, paru le 28 novembre 2024 dans Le Soleil. Les plans de milliers de Québécois vivant avec un handicap sont sur la glace. Faute d'argent, le programme qui finance les travaux pour adapter la maison des personnes handicapées a récemment été suspendu indéfiniment par Québec. Des milliers de Québécois devront attendre avant de voir leur quotidien simplifié et sécurisé par une nouvelle rampe, un bain adapté ou par des cadres de porte élargie. La Société d'habitation du Québec, SHQ, a discrètement suspendu pour une période indéterminée les principaux volets de son programme d'adaptation de domicile, PAD, a appris Le Soleil. Celui-ci est dédié à payer les travaux pour rendre les résidences des personnes vivant avec un handicap accessible. Québec explique cette suspension par l'épuisement de l'enveloppe dédiée au PAD, vidée par la forte augmentation du nombre de demandes d'adaptation. Celui-ci a bondi de 15% par rapport à l'an dernier. Rien n'indique quand Québec débloquera le budget permettant la réouverture du programme jugé essentiel pour que les personnes avec un handicap puissent vivre à la maison. La SHQ précise qu'il est toujours possible de déposer des demandes qui seront analysées dès la réouverture du programme. Les ménages ayant déjà obtenu un certificat d'admissibilité pourront mener leurs travaux. Dans le passé, Québec a déjà réinjecté des sommes en cours d'année lorsque l'enveloppe du programme d'adaptation ne suffisait plus, mais pas cette fois. Est-ce que c'est dû aux restrictions budgétaires? Est-ce que c'est une mauvaise planification en début d'année? Se demande la directrice générale du regroupement des organismes de personnes handicapées de la Capitale-Nationale, ROP-03, Véronique Vizina. Je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est évident, c'est que ça a des conséquences sur les individus qui en ont besoin, glisse la dame, elle-même en attente depuis plus d'un an d'une subvention pour installer un bouton ouvrant la porte de son logement. Il s'agit d'une question d'autonomie, mais aussi sécurité, insiste-t-elle. En attendant, j'habite dans un appartement qui n'est pas adapté et qui peut me mettre en danger en cas d'incendie. Plafond relevé, enveloppe vidée. La suspension temporaire du programme d'aide financière survient quelques mois après que Québec ait significativement augmenté la subvention maximale qu'il pouvait offrir. En mai 2023, le gouvernement Legault a fait passer le plafond des demandes au PAD de 16 000 $ à 50 000 $ après une trentaine d'années sans être relevé. Mais Québec n'a pas bonifié l'enveloppe du programme à la même hauteur, perpétuant un déséquilibre de l'avis des groupes d'usagers et de professionnels. Alors que le plafond des demandes a plus que triplé entre 2022 et 2024, le budget du PAD est passé de 14,9 millions à 37,2 millions. Les plafonds ont été augmentés et c'est bien, il fallait le faire, convient Mme Vizina. Mais l'enveloppe n'a pas suivi à la même vitesse, alors ça ne marche pas, résume-t-elle. On se ramasse avec plus de demandes qui coûtent plus cher, mais avec le même budget. Le résultat, c'est que moins de personnes peuvent en profiter. Son homologue de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COPHAN, Paul Lupien, dresse le même constat. C'est comme si on avait donné un coup de barre l'an dernier, puis là, on donne un coup de frein. Paul Lupien, directeur général par intérim de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COPHAN. Il juge que Québec aurait dû prévoir la popularité qu'aurait le rehaussement du plafond du programme, particulièrement en tenant compte du vieillissement de la population. Il fallait mettre pas mal plus de côté que ça, surtout que le programme à 16 000 $ ne répondait plus aux besoins depuis très longtemps, remarque-t-il. ce sont encore les personnes handicapées qui vont payer pour ça en vivant dans un environnement qui n'est pas adapté, qui n'est pas sécuritaire et qui n'est pas confortable. Manque de vision. Le président de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, dont les membres évaluent les besoins de ceux qui réclament des subventions du PAD, s'inquiète aussi de la suspension du programme. Selon lui, Québec nuit à ses propres objectifs de soins à domicile et de prévention en suspendant le programme plutôt qu'en regarnissant l'enveloppe. On voulait aller vers la prévention et on était sur la bonne voie, mais là, on va encore une fois retomber complètement dans le curatif à cause d'une enveloppe vide, se désole Alexandre Nadeau. Le président de l'Ordre professionnel craint que la pause amplifie les délais déjà longs de l'administration du programme au détriment des personnes qui vivent avec un handicap. Si elles ne sont pas en mesure de faire l'ensemble de ce qu'elles peuvent faire parce qu'elles sont brimées par leur environnement, elles perdent des capacités, note le représentant des ergothérapeutes. Ça, c'est très préjudiciable. Faute de budget pour adapter leur logement, certains Québécois vivant avec un handicap pourraient même être placés prématurément dans d'autres ressources comme des CHSLD, note M. Nadeau. On comprend que, quand on s'en va vers ça, on est vraiment devant un manque de vision, parce que c'est beaucoup plus coûteux comme solution de placer quelqu'un. Les représentants de groupes de défense des droits de personnes handicapées redoutent aussi l'institutionnalisation de Québécois qui auraient pu rester à la maison avec quelques adaptations. En catimini, l'ensemble des intervenants qui se sont entretenus avec le soleil s'exaspèrent aussi de la manière dont le gouvernement Legault a annoncé la mise sur pause du programme de subvention destiné aux personnes vivant avec un handicap. Aucun avis public formel n'a été envoyé par Québec ou sa société d'habitation pour prévenir le public. Les partenaires du gouvernement n'ont pas été prévenus à l'avance de la chose. Seul un court encadré sur la page du programme et une infolettre envoyée le vendredi après-midi avec effet immédiat a souligné la suspension temporaire du PAD. Quand on a vu ça, on s'est dit « My God, c'est quoi ça ?» raconte le directeur général de la COPHAN, M. Lupien. « On ne nous en a jamais parlé, même si on aurait clairement dû, » dénonce-t-il. Même son cloche pour le président de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Considérant la collaboration qu'on a depuis plusieurs années et l'impact que ça a sur nos membres et le public, je suis un peu déçu. Confie Alexandre Nadeau. On aurait dû nous avertir. L'Ordre est d'ailleurs en attente d'une rencontre avec Société d'habitation pour en savoir plus sur les prochains mois, puisque Québec ne précise nulle part quand le PAD sera réouvert. On ne sait rien de la suite, et c'est surtout cette partie-là qui nous inquiète. Attendre, ça peut amener des problèmes beaucoup plus graves que ceux d'origine, note M. Nadeau, avec en tête la santé psychologique des personnes vivant avec un handicap. C'était « L'argent manque pour adapter la maison des personnes handicapées », un texte de Simon Carmichael, paru le 28 novembre 2024 dans Le Soleil.
Peux-tu le faire à ma place ? Un texte de Gabrielle Duchesne et Ariane Lacourcière, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Pour leur permettre de raconter des cas vécus, nous avons accepté de leur accorder l'anonymat. Nous avons aussi discuté avec des experts et des associations professionnelles dont les observations confirment les récits provenant du terrain. Les constats sont alarmants. Cette année, dans la classe de premier cycle de Sylvie, les enfants n'ont pas été capables d'identifier un koala sur une image. Ils ont aussi mélangé un tigre et un lion, un phénomène qu'elle ne voyait pas il y a quelques années, avant les écrans, quand la consommation de livres était plus présente dans les maisons. En première année, dit l'enseignante de 30 ans d'expérience, seulement 20 % des élèves sont capables de peler une banane. Tailler un crayon est aussi difficile. On a été obligé de choisir de gros crayons triangulaires parce que les élèves n'étaient plus capables de manipuler les crayons réguliers. Les profs doivent montrer aux enfants à sortir le capuchon de leur coton ouaté, de leur manteau, à mettre leur mitaine, à monter leur fermeture éclair ou à attacher leurs souliers. Nous entendons des enseignants rapporter que les enfants ne maîtrisent pas certaines activités de la vie quotidienne à leur arrivée à l'école, valide Noémie Quentin, professeure responsable du programme de perfectionnement des compétences professionnelles en milieu scolaire au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. Elle précise toutefois que le phénomène n'a pas fait l'objet d'études à long terme et qu'il est difficile à mesurer. On remarque certaines lacunes de langage, de comportement et d'habitude de vie. Depuis la pandémie, on voit vraiment une différence. Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Monsieur Ouellet fait état d'enfants qui essaient de « sweeper les pages d'un livre » comme sur une tablette électronique, tellement ils n'ont pas été exposés à la lecture. Une directrice au primaire lui a aussi raconté que certains enfants vivent dans un monde parallèle et sont tellement dissociés de la réalité qu'elle doit leur préciser qu'elle s'adresse à eux et non à leur personnage virtuel de jeu vidéo quand elle leur parle. Ils sont entre deux mondes, dit Carl Ouellet. L'Association québécoise du personnel de direction des écoles, AQPDE, a déposé en septembre un mémoire à la commission spéciale qui étudie les effets des écrans sur la santé et le bien-être des jeunes, selon lequel les enfants québécois ont de la difficulté à écrire, à s'exprimer et à socialiser et ont une moins bonne motricité fine. Présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, Mélanie Laviolette constate des changements chez les enfants d'aujourd'hui et se questionne sur la cause. On a un rythme de vie de plus en plus fou. Les deux parents doivent travailler. On est moins présent. Il y a parfois un sentiment de culpabilité chez les parents qui fait qu'on met de côté les affaires plates, comme montrer à attacher ses souliers ou à ramasser pour faire des activités le fun. Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Julie, enseignante de maternelle, observe tout ça dans son école du Grand Montréal. Des enfants n'arrivent pas à enfiler leurs souliers ou à attacher leur manteau. Quand je leur dis d'essayer, ils me disent « Je suis pas capable ». Certains me font des crises quand j'insiste pour qu'ils essaient ou parce que je ne les habille pas. De l'autonomie, ils n'en ont plus, déplore sa collègue Luce, enseignante de première année en Montérégie. Des élèves ne sont par exemple plus capables de découper en suivant les lignes. Plusieurs font des crises à la moindre contrariété. Ils lancent des objets, tapent les autres. Ils n'ont pas appris à faire les efforts nécessaires. Beaucoup me demandent « Peux-tu le faire à ma place ? Il y a moins de tolérance à l'effort. » Luce, enseignante de première année. À la maternelle, certains enseignants doivent montrer aux élèves comment monter et descendre un escalier, ajoute-t-elle. Ils ne sont pas capables de faire du bricolage. Ils ont de la difficulté à rester assis en classe parce qu'ils ne bougent pas assez. Ils manquent de tonus, de force musculaire. Ils sont plus violents dans leurs gestes et leurs propos, énumère Catherine, éducatrice spécialisée aux primaires. Elle ajoute que beaucoup d'enfants ne sont pas propres à la maternelle 4 ans et parfois même à 5 ans. Marie-Ève, enseignante dans une école en Estrie, note aussi que des enfants commencent le préscolaire avec des culottes de propreté. Et pas seulement ceux qui ont des besoins particuliers. Si bien qu'à son école, une personne a été engagée pour changer les couches des enfants 3 ou 4 fois par jour. Le poste s'appelle « Un préposé aux enfants handicapés ». Mais ils ne sont pas nécessairement handicapés, dit-elle. Ce manque d'autonomie peut s'étirer durant des années. Geneviève enseigne en 4e année dans un milieu très favorisé. Même à ce niveau, elle doit régulièrement gérer les espadrilles de ses élèves de 9 ans, que plusieurs n'arrivent toujours pas à lacer correctement. Je leur montre comment les attacher moins serrés et rentrer les lacets à l'intérieur pour qu'ils puissent les enfiler style pantoufle. Sinon, je passe la journée à leur dire de les rattacher. Geneviève, enseignante de 4e année. L'enseignante déplore aussi un manque d'organisation chez plusieurs enfants. Il faut tout dire et redire. Mets tes crayons ici, tes cahiers mous ici, tes cahiers rigides là. Ce n'est pas tout le monde, mais environ les 2/3 sont mal organisés. Ils ne savent plus rien gérer. Je leur montre même comment placer les choses sur leur pupitre. Je dois vérifier leur casier. Il y en a qui ne sont pas capables de ramasser leur boîte à lunch. Même recul sur le plan des relations sociales. L'enseignante a souvent besoin de relativiser la gravité de certains événements anodins, perçus comme des catastrophes par les enfants et leurs parents. Elle donne l'exemple d'un élève paniqué parce qu'il a perdu son crayon et d'un adulte qui envoie une lettre exigeant une intervention parce que son enfant s'est fait marcher sur les pieds par un camarade. On est dépassé dans l'enseignement des matières parce qu'on est occupé à enseigner le vivre ensemble. En début d'année, je fais presque juste ça, dit-elle. Il y a une perte du temps d'enseignement, confirme Carl Ouellet de l'AQPDE. Les enseignants sont beaucoup dans la gestion de base. Il faut prendre plus de temps pour ça. C'était « Peux-tu le faire à ma place ?» un texte de Gabriel Duchesne et Ariane Lacourcière, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.
Une trousse familiale pour aider les enfants autistes de l'Île-du-Prince-Édouard. Un texte de Honorine Ngonchou, paru le 27 novembre 2024 dans Ici, l'Île-du-Prince-Édouard. Le centre Cap Enfant, en collaboration avec le réseau santé en français de l'Île-du-Prince-Édouard, lance une nouvelle trousse de sensibilisation à l'autisme. Le contenu de la trousse a été présenté aux parents et aux étudiantes en petite enfance, mardi, à Charlottetown et à Summerside. La trousse de sensibilisation à l'autisme est constituée d'un sac de la taille d'un sac de voyage de couleur bleu ciel avec quelques motifs imprimés. À l'intérieur du sac, on trouve des cartables, des jeux, des livres, du matériel sensoriel, un mini-projecteur de lumière pour le plafond et d'autres articles qui peuvent aider un enfant autiste. La trousse a été conçue pour aider les utilisateurs à mieux interagir avec les enfants autistes de 3 à 12 ans. Les jeux sont faits pour être joués en famille. Les livres sont lus en famille et les enfants peuvent utiliser les petits jouets tout seuls, dit Rachel Smith, directrice de Cap Enfant. L'enfant va se sentir qu'il est capable. L'enfant peut se reconnaître. Une citation de Rachel Smith, directrice du centre Cap Enfant. La 12aine de personnes présentes au lancement a bien accueilli la ressource. On ne voit pas toujours les enfants avec l'autisme lors des cours, donc être ici et même apprendre à propos des jouets qui les aident ou les livres pour les soutenir, c'est très important. Et je vais les apporter dans mes classes, et quand je travaille aussi, dit Lydia Emphill, une étudiante en petite enfance. Marie-Paul Elomo, qui a déjà travaillé auprès des enfants autistes, est elle aussi conquise. Aujourd'hui, quand j'ai vu ce matériel, je me suis dit « waouh », parce que ça, c'est vraiment un outil qui aide les enfants à comment fonctionner. Je trouve que ça va aider ces enfants-là à comment gérer l'autisme. Et même les éducatrices aussi pourront trouver des ressources pour soutenir les enfants, dit-elle. Au service de l'enfant autiste. Les fonds qui ont servi à réaliser la trousse de sensibilisation à l'autisme proviennent de l'Agence de la santé publique du Canada et du réseau Santé en français. Environ 10 000 $ pour la conception des trousses, l'impression, l'achat du matériel, etc., dit Élise Arsenault. Je pense que l'enfant, ce qu'il gagne, c'est à un moment donné que les gens soient plus sensibilisés, qu'on devienne plus inclusif. Une citation d'Élise Arsenault, directrice du réseau santé en français Île-du-Prince-Édouard. Pour parfaire le contenu de la trousse, la consultante responsable a fait appel à un comité d'experts constitué de thérapeutes et de travailleurs de la petite enfance. Le comité a été vraiment ouvert à écouter toutes nos recommandations. Puis, ça n'a pas été facile de trouver du matériel qui répond à chaque enfant, parce que chaque enfant est tellement unique, dit Christa Arsenault, une membre du comité d'experts. 6 exemplaires de la trousse ont été produits. Les utilisateurs pourront les emprunter pour une période d'un mois. Cap Enfant, la Commission scolaire de langue française et l'Association des centres de la petite enfance vont disposer d'un exemplaire chacun et les 3 restants seront remis aux bibliothèques francophones publiques. Une vidéo d'environ 5 minutes est en ligne pour expliquer comment utiliser la trousse. Le format électronique de la trousse est accessible au moyen d'un code QR et les articles contenus dans le sac peuvent être commandés en ligne. C'était Une trousse familiale pour aider les enfants autistes de l'île du Prince-Édouard, un texte de Honorine Nangchou, paru le 27 novembre 2024 dans Ici, Île-du-Prince-Édouard.
Quoi faire quand nos aînés sont perturbés? Un texte du Dr François Richer paru le 23 novembre 2024 dans le Journal de Montréal. L'Alzheimer et les autres maladies cérébrales peuvent causer des changements de sensibilité émotionnelle, de comportement ou de personnalité qui s'avèrent perturbants. Mais les proches peuvent faire une grande différence en adaptant leurs interventions et en prenant soin d'eux-mêmes. Un conjoint agité et confus, un parent irritable qui refuse toute aide, une grand-mère qui se déshabille en public ou qui croit que ses voisins lui veulent du mal. Les maladies cérébrales comme l'Alzheimer ou les troubles apparentés sont surtout connues pour les difficultés cognitives qu'elles causent. Leurs profils sont variables, mais plusieurs commencent soit par des troubles d'attention et de mémoire à court terme, on parlait de quoi déjà, ou par des oublis rapides des événements récents. On s'est parlé hier? Ces difficultés affectent notre capacité de fonctionner au quotidien, notre autonomie, mais pas nécessairement qui nous sommes. Or, en plus des difficultés cognitives, les troubles neurocognitifs causent souvent des perturbations importantes des émotions et des comportements sociaux, ce qui cause un stress élevé pour la personne touchée et pour ses proches. Les troubles neurocognitifs réduisent souvent notre résistance au stress, notre contrôle émotionnel et nos filtres sociaux. Certaines personnes montrent des réactions inattendues comme refuser de collaborer, devenir anxieux ou agité, montrer des changements d'humeur soudains ou des colères. D'autres montrent des changements d'intérêt ou de personnalité, comme une personne discrète qui devient effrontée ou une personne active qui devient apathique. Parfois même, les personnes développent des croyances bizarres, elles deviennent méfiantes, ou des comportements inappropriés, insultes, manque de respect, transgression de normes. Des interactions délicates. Les perturbations psychologiques des personnes atteintes de troubles neurocognitifs ont souvent des impacts majeurs sur leur vie et sur celle de leur entourage. En plus d'affecter leur bien-être et leur vie sociale, ces perturbations peuvent entraîner une détérioration des soins qu'elles reçoivent et de leur santé générale. Les perturbations psychologiques rendent souvent les communications et les interactions plus difficiles avec l'entourage. Les mots et les gestes de la personne peuvent être raides ou provocants. Les proches sont souvent surpris ou même bouleversés par les réactions inattendues de la personne atteinte. Ils doivent adapter leurs attentes, leurs habitudes et leurs relations avec la personne touchée. Parfois, les proches ne savent pas trop comment aborder la personne, quelle attitude et quels mots employer pour réussir leurs interactions. Les personnes troublées ont besoin d'une approche calme, attentionnée et respectueuse. Elles réagissent souvent positivement à ceux qui montrent un intérêt authentique et marqué pour elles et à ceux qui réagissent avec patience, doigté et légèreté à leurs écarts de conduite. C'est pas grave, ça nous arrive à tous. Cherchez les sources. Les perturbations psychologiques peuvent apparaître pour une foule de raisons et être influencées par plusieurs facteurs à la fois. Elles peuvent bien sûr être affectées par l'évolution de la maladie quand elles perturbent les circuits cérébraux de l'humeur ou du contrôle émotionnel. Elles peuvent aussi émaner de besoins non comblés, avoir faim ou froid, manquer de sommeil ou d'attention, ou encore d'une souffrance peu visible, douleur, digestion, deuil. Les problèmes de santé physique, infections, diabète, etc., et la médication peuvent aussi les faire apparaître ou les amplifier. L'environnement, bruit, stress, ambiance et les changements d'habitude peuvent faire basculer des personnes fragiles. Les facteurs qui déclenchent ou favorisent les perturbations psychologiques sont souvent difficiles à identifier, surtout quand les difficultés cognitives et de communication nous empêchent de capter des indices importants. Mais l'entourage de la personne peut souvent faire une différence. Notre empathie, notre bienveillance et notre volonté d'aider nous permettent de développer nos habiletés pour mieux comprendre ce qui se passe, améliorer les facteurs sur lesquels nous pouvons intervenir et servir d'intermédiaire entre la personne et les autres sources d'aide. Le rôle de proche aidant peut être une source d'accomplissement et d'enrichissement, mais c'est souvent aussi une source de stress élevé. Il faut donc prendre soin de soi, surveiller nos signes d'épuisement et trouver du soutien. C'était « Quoi faire quand nos aînés sont perturbés? » Un texte du Dr François Richer paru le 23 novembre 2024 dans le Journal de Montréal.